Il est 7h34 sur France Culture. C'est le journal de la culture de Natacha Triou. Bonjour Natacha.
Bonjour Julie.
Au menu de votre journal aujourd'hui, le rendez-vous des arts de la rue, de la couleur et du soleil avec Nicolas Destal et la controverse autour de Scarlett Johansson.
Oui, revenons sur cette polémique qui enflait depuis 2 semaines. L'actrice avait accepté le rôle principal du prochain film de Rupert Sanders, Rub and Tug. Un biopic sur Dante Tex Gill, le criminel transgenre des années 70. À la suite de vives critiques, l'actrice vient de renoncer au projet.
Ouais, sur les réseaux sociaux, la communauté LGBT, les acteurs transgenres avaient protesté. Ils disaient qu'il revenait à l'un d'entre eux d'incarner ce rôle.
Voilà, et l'an dernier, l'américaine avait interprété pour Ghost in the Shell une héroïne japonaise et avait été accusée de faire du whitewashing.
Le whitewashing,
c'est cette pratique qui consiste à grimer un acteur blanc plutôt que de choisir un acteur correspondant à l'origine ethnique du personnage. Une vieille tradition à Hollywood qui est dénoncée depuis peu.
Oui, la controverse prend place dans un contexte assez nouveau où on réussit à s'imposer les questions de visibilité et de représentation des différentes communautés au cinéma, confère le succès de Black Panthers, le super-héros noir de Marvel.
Oui, de Marvel, voilà. Et un autre signe de cette effervescence militante sur toutes ces questions, c'est qu'en 2013, quand Jared Leto recevait un Oscar pour son interprétation de transgenre pour Dallas Buyers Club, cela n'avait provoqué aucune polémique.
Comment tu trouves cette robe? Je crois que le décolleté est un peu trop plongeant.
Rayon. L'objectif de cette étude, c'est de déterminer si l'AZT aide les malades.
Mais Eve, tu sais bien que moi, ça ne m'aide pas.
Je compte pas renoncer pour autant.
Il est vrai que les transgenres sont peu représentés dans le 7e art et que les acteurs trans sont rares à percer, mais ce débat autour de Rub and Tug marquera peut-être un tournant.
Les questions de genre et de transidentité sont d'ailleurs très présentes cette année dans la programmation du Festival d'Avignon. J'en profite pour dire que France Culture est présente au festival avec chaque jour en direct et en public la grande table de Maïlys Bessery dans la cour de l'Université Pasteur et les fictions dans la cour du musée Calvet tous les jours à 20h. Et c'est retransmis en direct vidéo sur le site de France Culture.
On poursuit. Nous sommes en 1954, le peintre français Nicolas Destal connaît enfin le succès. Il vient d'acheter une propriété dans le Vaucluse, l'artiste est tombé éperdument amoureux de la Méditerranée et de Jeanne Polge, sa nouvelle muse. Pressé par son galeriste new-yorkais, il peint en l'espace d'un an plus de 250 tableaux. En 1955, alors qu'il n'a que 41 ans, l'artiste se suicide à Antibes. C'est cette année d'une intense créativité qui fait l'objet d'une très belle exposition en ce moment à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence.
Et sur les 250 toiles de peintes entre 54 et 55, l'exposition en a rassemblé 71 de cet artiste majeur.
Oui, c'est une période qui était courte mais qui était charnière. Ses œuvres sont toujours à la frontière de l'abstraction et de la figuration, mais là on le découvre paysagiste virtuose. Il y a des rouges carmins, des jaunes puissants, des oranges profonds. Le peintre change de palette et ose la couleur pure. Il veut représenter la lumière du sud, ou plus exactement l'émotion qu'elle suscite. Et il cherche le dépassement de sa propre peinture. Il faut beaucoup travailler, écrivait-il. Éternel insatisfait, son suicide fera de lui un archétype de l'artiste romantique.
L'exposition de Nicolas Destal en Provence dure jusqu'à la toute fin de l'été, un peu au-delà, jusqu'au 23 septembre. Natacha, vous prenez chaque jour la route d'un festival estival. Aujourd'hui, direction Chalon-sur-Saône.
Oui, le festival Chalon dans la rue commence demain. C'est une manifestation qui existe depuis 32 ans et c'est l'un des festivals de théâtre de rue les plus importants au monde. L'événement attend 150 compagnies et plus de 250 000 personnes. Au programme, des spectacles sous différentes formes, en déambulation dans la ville ou même dans des TER. L'événement rend compte de la vitalité et de la diversité du secteur, tout en prenant le diapason de ses évolutions. Pierre Dufaureau, son directeur, nous en dit plus.
On a un spectacle vivant qui est souvent assez visuel, qui emprunte aussi au théâtre d'objets, qui emprunte avec beaucoup d'apports aussi de la musique et surtout aujourd'hui aussi une arrivée un petit peu d'un travail autour du numérique. Aujourd'hui, on commence à avoir des artistes qui saisissent de ces techniques avec des propositions artistiques qui mettent en jeu le spectateur aussi via leur téléphone, via la géolocalisation, via des circuits un peu audio-guidés dans la ville. On a affaire là à des propositions qui, en termes esthétiques et en termes de forme, empruntent à plein de domaines, mais se retrouvent dans quelque chose de commun qui est « proposons un geste artistique au cœur de la ville » à un public qui peut être un public aussi de passants. Et c'est à cet endroit qu'il y a une pertinence et je pense quelque chose d'assez innovant dans la relation entre le culturel et la société en général.
À noter, le festival s'ouvre sur le street art et sur l'art de la performance, et notamment, ça, c'est une pépite, celle de la funambule Joanne Amblé, qui tient le pari de vivre sur son fil pendant 24 heures.
24 heures sur son fil. Waouh, bon courage. En tout cas, Chalon dans la rue, c'est à partir de demain jusqu'à dimanche. Merci beaucoup, Natacha Triou. Tout de suite, l'invité des matins.